Restez à l'écoute de France Culture. Dans quelques instants, nous allons parler du démembrement autour d'une bande dessinée qui vient de paraître et intitulée « Champ de bataille, l'histoire enfouie du démembrement ». Mais tout de suite, il est 19h. Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Pour échapper à la censure, Michel Barnier fait plusieurs concessions au Rassemblement National. Dans un entretien au Figaro, le Premier ministre annonce qu'il n'y aura pas de hausse des taxes sur l'électricité, mesure qui permettra selon lui de faire baisser de 14% les tarifs l'an prochain. Autre concession au RN, la réduction des soins pris en charge par l'AME, l'aide médicale d'État, un dispositif qui s'adresse aux étrangers sans papiers. Michel Barnier parle d'une diminution sensible du panier de soins, sans rentrer dans les détails. Concession insuffisante pour l'instant, puisque le président du RN, Jordan Bardella, affirme que des lignes rouges demeurent. Si le Rassemblement National vote avec la gauche une motion de censure la semaine prochaine à l'Assemblée, le gouvernement Barnier sera renversé. L'Assemblée nationale qui examine depuis ce matin la proposition de loi LFI visant à abroger la réforme des retraites. Le texte s'inscrit dans la niche parlementaire de la France Insoumise. Elle s'achève ce soir à minuit et les partis du socle commun qui soutiennent Michel Barnier ont déposé près d'un millier d'amendements. Résultat, il est fort peu probable que les députés aient le temps de voter sur le texte. Vladimir Poutine brandit de nouvelles menaces contre l'Ukraine. Le président russe n'exclut pas de frapper Kiev avec son nouveau missile Oreshnik, un missile hypersonique testé la semaine dernière contre une usine d'armement de Dnipro. Le maître du Kremlin veut récidiver, cette fois contre la capitale ukrainienne. Sylvain Tronchet nous appelle de Moscou.
Oreshnik arrive sur sa cible à une vitesse de 3 km par seconde. La température des éléments de frappe atteint 4000 degrés. Tout ce qui se trouve dans l'épicentre de l'explosion est réduit en poussière. Même s'il n'est pas équipé d'une tête nucléaire, c'est comme une météorite. Voilà comment Vladimir Poutine décrivait cet après-midi le nouveau missile de moyenne portée russe que Moscou pourrait à nouveau envoyer sur l'Ukraine. Et cette fois-ci, le maître du Kremlin menace de viser la capitale ukrainienne. L'état-major est en train de sélectionner des cibles, a-t-il précisé. Il peut s'agir de centre de décision à Kiev. Vladimir Poutine a donc été particulièrement précis dans ses nouvelles menaces. Le président russe a également affirmé que 100 missiles conventionnels et plus de 400 drones avaient été lancés sur l'Ukraine ces deux derniers jours. Autant de réponses, affirme-t-il, aux frappes ukrainiennes sur son territoire, à l'aide d'armes occidentales, américaines notamment, tout en affirmant qu'il était toujours ouvert aux négociations et que Donald Trump était, selon lui, un homme intelligent qui savait trouver des solutions.
Et la Russie qui a lancé ce matin une nouvelle salve de missiles et de drones contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. 1 million d'Ukrainiens étaient privés d'électricité à la mi-journée. Le président Volodymyr Zelensky accuse les Russes d'avoir utilisé des engins à sous-munitions. Une escalade méprisable selon lui. 9h03 sur France Culture, question du soir, deuxième partie, les idées avec vous Quentin Lafay.
Merci Stanislas Vazak, seconde partie de question du soir consacrée comme chaque soir à l'actualité des idées et de la recherche. Et aujourd'hui, un concept dans la lumière, celui de remembrement.
France Culture, question du soir, Quentin Lafay.
C'est un mouvement souterrain qui a frappé les terres de notre pays, un mouvement peu documenté qui a structuré l'organisation, les paysages, la vie, la biodiversité et l'imaginaire des campagnes françaises. Ce mouvement, le remembrement, un sujet au cœur de la bande dessinée signée Inès Leroy et Pierre Van Hove, paru le 20 novembre dernier aux éditions Delcourt, un album intitulé « Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement ». Alors pourquoi ce processus reste-t-il structurant pour comprendre la ruralité et les campagnes françaises? Pour en parler, deux invités ce soir. Inès Leroy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes documentariste bien connu des auditeurs de France Culture. À vos côtés, Léandre Mandard, bonsoir.
Bonsoir.
Doctorant au Centre d'Histoire de Sciences Po Paris, merci à tous les deux d'être venus ce soir dans Question du Soir.
Une mosaïque de champs. Voilà un aspect de la campagne française avant la dernière guerre. Parcelles petites, exiguës, d'où perte de surface cultivable. Parcelles dispersées, souvent incommodes d'accès, d'où perte de temps. Après la guerre s'amorce le remembrement, véritable révolution pacifique et discrète qui touche à la propriété, à la terre ancestrale du paysan. Le cadastre est refondu, les parcelles groupées et redistribuées. Champ plus vaste, mieux dessiné, plus accessible. Gain de temps, de qualité, de surface. À tout point de vue, meilleure utilisation du capital terre.
Archive superbe et entraînante trouvée, dégotée même par François Richer, le réalisateur de cette émission. Il faut nous expliquer tout de même, Léandre Mandard, ce qu'est le remembrement dans sa définition comme dans son processus historique.
Alors, le remembrement, c'était une politique d'aménagement agricole et rural qui consistait à agrandir les parcelles et à les grouper autour des exploitations. Et en fait, on organisait à l'échelle d'une commune donc cet aménagement. Et ça s'est déployé principalement dans la deuxième moitié du XXe siècle, en vertu de la loi du 9 mars 1941.
Quels étaient les motifs de cette réorganisation? Qu'est-ce qui présidait à l'idée générale même de cette réorganisation des terres agricoles de France?
Alors l'idée, c'était d'adapter le plan des parcelles, le parcellaire au nouveau matériel agricole, donc principalement aux tracteurs, aux grandes machines, et du coup ce qui permettait ensuite d'intensifier la production et de tourner, de moderniser l'agriculture afin de se tourner aussi rapidement vers l'export à partir des années 60 principalement.
Inès Liraud, quand on entend cette définition, on se demande ce qu'une documentariste est venue faire là-dedans. Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, dans ce vaste sujet?
Bah, c'est vrai que moi, j'entendais cette... Le mot remembrement résonnait avec cette définition très technique et pas très attractive. Et quand je me suis installée en Bretagne en 2015 pour enquêter sur l'agriculture intensive, sur les algues vertes, dans le petit village où j'habitais, j'ai vite entendu parler des violences sociales et environnementales générées par le remembrement. Et ça, j'en avais pas entendu parler ailleurs. J'ai cherché des données sur ça et il y avait très peu d'études en fait.
Et vous dites, d'ailleurs, vous écrivez plutôt dans la bande dessinée que vous faites paraître intitulée « Champ de bataille » qu'il y a très peu de données, que dans le même temps, c'est une BD qui est nourrie des dernières recherches, notamment des recherches historiques en la matière. Alors comment vous avez travaillé pour concevoir cette bande dessinée?
Alors, les premiers temps, j'allais voir des témoins dans les villages alentours. J'avais entendu dire qu'à Trébrivent, pas très loin de là où j'habitais, dans les Côtes d'Armor, il y avait eu des violences policières sur les paysans qui manifestaient contre le remembrement. Il y avait une vieille femme qui avait été tirée par les forces de l'ordre, qui était morte peu après. Un autre homme qui avait été interné de force en psychiatrie. Un opposant au remembrement. J'ai commencé à récolter des témoignages et puis, quelques temps plus tard, on m'a dit « Mais est-ce que tu sais qu'il y a un étudiant qui fait une thèse à Sciences Po Paris, au Centre d'Histoire, sur le remembrement ?»
Quelque chose me dit qu'on le connaît, cet étudiant.
C'est Léandre Mandard qui est ici et on s'est rencontrés et en fait, on était vraiment, on avait fait les mêmes constats. On s'était dit, on avait remarqué tous les deux, chacun de notre côté, qu'il y avait un angle mort sur les violences sociales du remembrement, les perdants du remembrement, les paysans qui avaient dû quitter la terre, etc. Et on s'est mis à travailler ensemble, à faire des entretiens ensemble, à partager nos archives, nos analyses. Et c'est à partir de là que moi, j'ai commencé à aller aux archives départementales avec Léandre et que j'ai appris un peu cette méthodologie d'historienne, à savoir d'aller éplucher les archives. Et puis, on a aussi rencontré avec Léandre un historien qui s'appelle Christophe Bonneuil et qui travaille beaucoup sur les modernisations agricoles et d'autres historiens et historiennes. Et on s'est aussi nourri de leurs recherches.
Parce qu'il faut nous dire, Léandre Mandard, tout de suite pour entrer justement dans le cœur du sujet, ce que le remembrement a provoqué déjà de tensions sociales. Il y avait des gens dans les campagnes françaises qui étaient allés très allant sur ce sujet. Ça leur permettrait de moderniser leurs exploitations. Et d'autres qui étaient plutôt en résistance. Alors comment s'opéraient les coupures et le schisme autour de cette question?
Alors c'est vrai que le remembrement, souvent... On a tendance à l'assimiler au bouleversement du paysage qu'il a entraîné, parce que dans les régions de bocage, comme la Bretagne, il a entraîné la destruction d'énormément de haies, de talus. Et voilà, c'est souvent ça qu'on retient, mais ce qui n'a pas encore été vraiment étudié jusqu'ici, c'était effectivement les nombreuses contestations et résistances aussi auxquelles il a donné lieu de la part des paysans et des paysannes qui étaient confrontés. Parce que le remembrement, en fait, c'est une procédure qui, par de nombreux aspects, est assez autoritaire, parce que c'est l'administration qui l'encadre, c'est le corps du génie rural, les ingénieurs. Même le fait qu'elle était, c'est une loi de 41 aussi. Elle a été prise. C'est une loi de Vichy en fait, qui a été élaborée dans un contexte, voilà, aussi de régime autoritaire.
Qui donne au préfet la mission d'organiser ce remembrement justement.
Qui donne à l'administration, en effet, un rôle vraiment très important dans cet aménagement. Et en fait, par exemple, il suffit que quelques personnes demandent le remembrement sur une commune pour que la demande soit examinée par le préfet. Et une fois que le préfet déclare le remembrement ouvert sur une commune, il est obligatoire pour tout le monde et personne ne peut s'y soustraire. Et sauf que la société paysanne aussi, les agriculteurs et agricultrices, il y a une diversité en fait de profils sociaux, et tout le monde ne pouvait pas forcément avoir le même intérêt. Et en plus, le remembrement dans la pratique tendait à marginaliser certains profils d'agriculteurs et agricultrices. Alors souvent, les personnes les plus âgées, c'est celles qui voulaient pas ou ne pouvaient pas se moderniser. Les personnes aussi qui étaient en polyactivité, qui avaient conservé une activité agricole, mais qui pouvaient être artisans ou commerçants. Même si d'autres profils aussi ont pu se sentir lésés et contester le remembrement. Mais en général, voilà, le remembrement tend à organiser le monopole du contrôle de la terre en faveur d'une certaine classe d'agriculteurs.
J'aimerais vous faire entendre l'extrait d'Un pied sur terre que vous signez, Inès Leroux, qui a été diffusé sur France Culture le 23 janvier 2023.
Mon père était partie prenante dans l'organisation du remembrement. Il y était favorable. Et moi, gamin, j'adhère au discours de mon père. Le remembrement arrive, on entendait des conversations à la maison qui étaient sur un autre ton. Et assez brutalement, je me souviens, ma mère me dit « il faut plus aller jouer chez les voisins ». Et on entend des conversations le soir au souper où le voisin chez qui vous jouiez la veille eh bien, était désigné comme un ennemi. Et on entend « attention, en traversant la rue, parce qu'avec son tracteur, il pourrait faire exprès de te renverser ». Là, vous pigez pas du tout. Et puis on ne va plus chez le voisin, et puis on va plus l'aider. Et quand on a un problème, eh bien on fait plus appel au voisin. Et vous comprenez pas.
On entend plusieurs choses, Inès Leroux, dans ce témoignage de Pierre. On entend d'abord une opposition entre les générations sur cette question du démembrement. On entend aussi une violence sociale et des tensions croissantes dans un espace restreint entre voisins qui habitent un lieu commun.
Ouais, ce qui est très frappant, et c'est ce qui saute au visage quand on arrive dans ces zones rurales qui ont été touchées par le remembrement, c'est que ces violences, ces conflits, ces scissions, elles sont toujours là, encore aujourd'hui, des décennies après. Je suis allée dans un village qui s'appelle Géfos en Normandie, où il y a encore deux sociétés de chasse, la société de chasse des familles pro-remembrement, la société de chasse des familles anti-remembrement. Il y a des villages où il y a encore deux cafés, des rues où les voisins ne se parlent pas, alors que c'est des descendants de témoins du remembrement. Et en effet, ça a été... Enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, ce remembrement forme vraiment une rupture anthropologique dans les campagnes agricoles françaises.
De quelle façon ?
Parce que... En fait, ces campagnes travaillaient d'une façon assez locale, avec les ressources locales. Elles produisaient pour une échelle de population assez locale et elles étaient quand même pas insérées dans l'économie capitaliste. L'argent n'était pas dans une logique financière et ils travaillaient vraiment... c'était des communautés. Les paysans travaillaient quand même dans la solidarité, dans les échanges de services, dans le prêt des machines, etc. Et... l'intrusion, j'allais dire, mais en tout cas ce remembrement très vertical où l'administration vient décider de qui pourra continuer à travailler sur les terres ou pas, parce que l'idée quand même, le projet d'État, c'est vraiment ça, c'est d'expulser des terres une grande majorité de paysans, parce qu'il faut notamment qu'on ait des ouvriers sur les chaînes d'usines.
Enfin, l'idée de l'État, si je peux me permettre, c'est plutôt de moderniser notre agriculture d'une façon générale, pas tant, j'imagine, de demander à des gens de partir.
L'idée de l'État, c'est de mettre l'agriculture au service de l'industrie. L'idée de l'État, c'est de développer l'industrie française. Le général de Gaulle demande une expertise à des économistes qui, à la fin des années 50, sont très clairs sur le fait que le frein à l'expansion de l'économie française, c'est l'agriculture. L'agriculture est trop archaïque, selon eux. Et donc, il va falloir que beaucoup de paysans partent pour justement aller sur les chaînes des usines. Il faut que l'agriculture arrête de produire des denrées comme du beurre ou des produits finis. Il faut qu'elle produise de la matière brute pour alimenter les usines. Il faut que les denrées, les produits alimentaires, leur prix baisse énormément pour que les consommateurs puissent réserver une partie de leurs achats à des produits manufacturés pour faire vivre les usines. Et puis, il faut que les agriculteurs consomment des produits industriels, des tracteurs, enfin voilà.
Pour qu'on puisse mesurer encore une fois à quel point ce que vous dites est juste, Inès Leroy, à savoir que le remembrement est quelque chose d'encore bien vivant en France et à travers les Français, un autre témoignage, celui de Jacqueline.
Je revois l'apparition des bulldozers sur la colline en face de chez moi, qui détruisent tout, les arbres, les talus. Ils empilent ça comme si tout ça, ça n'avait plus d'importance. C'était vraiment une image qui m'a bouleversée. Je ne pouvais en parler à personne. C'était un remembrement, un démembrement. C'était le chaos, c'était un saccage. Il n'y avait plus rien. Je vous rends encore ces tas d'arbres qui s'empilaient. Et donc, c'était des choses que les hommes avant nous avaient fait patiemment, qu'on a détruit avec tellement de facilité, avec tellement vite. Je suis encore émue après toutes ces années quand j'en parle.
Et toutes ces années quand j'en parle, la Bretagne encore, hein, puisque Jacqueline est née en 1953 au Drennec, dans le Finistère. Léandre Mandard, quand on est historien, qu'est-ce que l'on fait d'un tel bouleversement, d'une telle émotion? Qu'est-ce que cela permet d'apprendre justement sur le remembrement?
Ça permet de voir déjà à quel point, on se constate qu'on n'en a pas parlé. En tout cas, on a quasiment pas d'études de sciences sociales qu'on portait sur les souffrances, les souffrances du remembrement. Et du coup, on a la chance de pouvoir encore avoir des personnes qui l'ont vécu et de pouvoir aller récolter leurs témoignages. Et c'est vrai que ça permet de montrer que le remembrement, c'est pas seulement alors de nouveaux chemins, de nouvelles routes et des kilomètres de haies détruites. C'est aussi un choc qui a provoqué qui a eu des conséquences psychosociales, culturelles. Et culturelles, même quand on s'intéresse par exemple au nom qu'avaient les parcelles avant le remembrement. Ils avaient souvent des noms en langue locale, en breton, en occitan, que sais-je, et on leur donne des numéros. Et en fait, par plein de choses comme ça, le remembrement a vraiment contribué à changer les manières de se relationner à l'environnement, au monde vivant, dans les campagnes. Et c'est vrai que voilà, les sources orales sont vraiment importantes pour saisir ça, pour comprendre ça, parce que si on s'intéresse qu'aux archives écrites produites par l'administration, qui sont très nombreuses, hein, parce que le remembrement c'est une histoire quand même relativement récente, on a beaucoup de documentation, mais ces archives-là présentent le point de vue de l'administration, justement de l'État, et donc ça a été intéressant. Le fait avec Inès de croiser les archives écrites et
ces témoignages. Ce qui est d'autant plus frappant, Inès Leroy, aujourd'hui, avec cette question du remembrement, c'est que les paysans français sont soumis à des injonctions absolument inverses. On va leur dire aujourd'hui qu'il faut replanter les haies. On va même subventionner cette idée-là, selon laquelle une haie, un kilomètre de haie, vaudra tant d'argent grâce à la PAC. Alors justement, comment cette question-là est vécue aujourd'hui par les agriculteurs à qui on a demandé blanc il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, et noir ou gris aujourd'hui?
Oui, c'est assez frappant. En fait, je pense que c'était comme un grand trou dans l'histoire et c'est comme un chaînon manquant de retrouver cette histoire et de la réécrire. Moi, je pensais beaucoup aux agriculteurs actuels et je me disais, est-ce que, enfin, ils savent, est-ce qu'ils se souviennent, vu que cette histoire, elle a été tellement traumatisante pour les populations rurales qu'elle n'a même pas été transmise dans les familles. Les gens, quand ils en parlent, ils font beaucoup appel au champ lexical de la guerre et ils ont les mêmes réflexes de mutisme, en fait. Ils ont beaucoup de mal à revenir dessus. Et du coup, je me disais, est-ce que même les agriculteurs, ils savent que une grande partie d'entre eux a été fer de lance d'une lutte écologique, enfin, d'une grande lutte écologique en France. Et en effet, ils ont, pour beaucoup d'entre eux, résisté à l'arrachage de leurs talus. Presque tous ont résisté parce qu'en fait, si bien souvent, ils étaient plutôt d'accord avec ce remembrement, etc., ils se sont bien vite aperçus des absurdités de l'administration qui les faisait parfois arracher des talus hyper importants pour limiter l'érosion des sols, par exemple. Enfin, et du coup, on leur a fait arracher de force ces talus et aujourd'hui, on leur demande de replanter, d'entretenir des haies, alors qu'en fait, dans le même temps, on leur demande d'être compétitif à l'international. Et en fait, pour être compétitif, il faut être plus grand, il faut être plus endetté, il faut être plus mécanisé. Et dans ces cas-là, on ne peut pas avoir de haies parce que ça limite les mouvements des machines sur les parcelles. Enfin, ça va pas, la compétitivité ne va pas du tout avec l'écologie. Donc, c'est des injonctions complètement contradictoires.
Un autre extrait de ces Pieds sur Terre que vous signez, Inès Leroux.
Mon père disait que ça allait améliorer la vie du paysan. Alors, si on revient là-dessus, améliorer la vie du paysan, et que je regarde aujourd'hui, 50 ans après, quelle est la vie du paysan, je me demande ce que ça a amélioré. Parce que mon village, mon tout petit village de 50 habitants, avec ses 7 familles de paysans, aujourd'hui, de paysans, il n'y en a plus que un seul, pas deux, un seul. Donc je ne sais pas de la vie de qui ça a amélioré.
Léandre Mondard, la conséquence aussi très concrète pour les territoires français, c'est une forme de désertification, notamment de certains villages, de certains bourgs, dans les zones rurales. Comment cela se traduit-il, justement, presque visuellement, j'allais dire ?
Déjà, c'est vrai que, assez logiquement, quand on agrandit les parcelles, eh bien, on facilite l'emploi de grandes machines. Et quand on a des grandes machines, on a besoin de moins de bras. Et donc, on a effectivement... le remembrement a vraiment accompagné cette érosion continue du nombre d'agriculteurs et d'exploitations. Et après, dans le paysage, eh bien, c'est vrai que quand on regarde... Pour les régions de bocage, des vues aériennes, par exemple, des années 50, avant le remembrement. Alors, on est vraiment frappé aujourd'hui, parce que ça n'a plus rien à voir avec la situation d'aujourd'hui. On a vraiment énormément de petits champs entourés de haies, avec des chemins creux, des pommiers aussi dans les champs, parce qu'il y avait beaucoup de pré-vergers, on appelait ça. Et le paysage a été effectivement transfiguré en quelques décennies, très rapidement. Même s'il y a toujours du bocage, bien sûr, mais il a des mailles beaucoup plus larges, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a des champs beaucoup plus grands. Et c'est un bocage aussi qui, au niveau écologique, notamment, présente beaucoup moins d'avantages, parce qu'il est beaucoup moins continu. Et par ailleurs, pour finir aussi là-dessus sur les changements de paysage, il ne faut pas oublier les d'autres aspects du remembrement, que sont les travaux, par exemple, de drainage, d'hydraulique agricole, comme on disait. Le remembrement, c'est avant tout un échange parcellaire, mais il y a énormément de travaux où on supprime tout ce qu'on appelle tous les obstacles à l'utilisation rationnelle du sol. Et du coup, comme on a drainé des prairies, par exemple, humides, et bien après on a pu les cultiver. Il y a eu un changement d'affectation de beaucoup de parcelles et ça aboutit à une intensification générale en fait, de l'agriculture.
Inès Leroux, la désertification de ces villages, de ces bourgs, c'est la fin de la bande dessinée. Vous terminez par cela, par le désert, l'absence aussi de ces personnes qui travaillaient dans les champs, dans les domaines agricoles. Pourquoi terminer par cela ? Qu'est-ce que cela veut dire, cette fin d'histoire ? C'est un nouveau début, paradoxalement ?
En fait, j'ai été appelée par un géographe qui s'appelle Jimmy Grimaud et lui, il étudiait la Marne et le changement d'affectation de ces campagnes, notamment dans l'est de la France, qui ont été complètement vidées, qui sont travaillées par des machines énormes et qui deviennent maintenant les lieux où on met les usines de méthanisation et les éoliennes qui deviennent... Donc il y a des énormes machines à la fois pour produire de l'alimentation et de l'énergie. Et en fait, oui, moi, j'ai été frappée de croiser des habitants, quelques rares habitants sur les trottoirs. Je leur disais, mais quand vous voulez boire... Parce que moi, je cherchais à boire un café dans ces villages. Et en fait, je n'en trouvais pas. Et on me disait, non, mais il faut aller à 60 km. Je disais, mais comment vous faites pour vous réunir entre amis? Et les habitants, ils disaient, non, mais sinon, on va chez les uns, chez les autres. Il n'y a pas de problème. Mais en effet, je pense que le remembrement a dessiné, c'est une rupture radicale entre ville et campagne. Et en fait, là où on produit de l'information, là où on produit de la connaissance, c'est beaucoup dans la ville. Et en fait, on ignore complètement ce qu'on a fait des campagnes.
Alors, vous l'avez dit, il y a peu de documentation sur le remembrement, peu de chercheurs qui se sont penchés sur, c'est pas facile à prononcer, qui se sont penchés sur le sujet depuis quelques années, mais depuis quelques années aussi, beaucoup de chercheurs s'intéressent à cela. On avait reçu, il y a quelques temps, dans Question du soir, Léo Magnien, qui avait fait paraître l'écologisation des mœurs, et il parle de remembrement.
Cette focalisation sur le remembrement est intéressante parce qu'elle permet d'ordonner le temps et de montrer un avant et un après. Et d'un autre côté, il y a aussi un récit qui vient avec cette temporalité spécifique qui empêche de saisir ce qui se joue vraiment aujourd'hui, parce qu'il y a des géographes, et notamment Thibaut Preux, qui a montré que ce qui se passe aujourd'hui dans la disparition du bocage, parce que ça continue, on perdrait aujourd'hui 20 000 km de haies de façon nette chaque année, ne passe pas par des opérations foncières qui sont sous l'égide de l'autorité publique, mais passe en fait par des transmissions de parcelles entre des exploitants, par des arrangements à l'amiable, et donc par quelque chose qui passe sous les radars.
Léandre Mandard, pourquoi faut-il donc sauver les haies aujourd'hui? Pourquoi est-ce que la haie est la nouvelle héroïne des campagnes françaises?
Bien, parce que la haie... Alors c'est vrai qu'on en fait, alors comme dit Léo Magnien, on l'a requalifié aujourd'hui, on l'a revalorisé pour ses avantages, voilà, en termes de biodiversité, du fait qu'elle limite l'érosion. Voilà, il y a énormément d'avantages écologiques, mais c'est vrai que on peut, il faudrait peut-être pas oublier non plus les nombreux usages quotidiens, nourriciers. Qu'il y a dans une haie, parce que on peut y trouver des fruitiers, des différentes essences de bois pour plein d'usages, ce qui était vraiment banal encore au milieu du XXe siècle, mais qui est quand même plus trop le cas aujourd'hui. Et après, c'est vrai que il y a aussi, je pense, un aspect d'agrément visuel, poétique, le fait de s'ancrer dans un paysage historique, il y a tous ces aspects. Enfin, c'est un objet effectivement chargé en potentialité d'usage et en potentialité dans l'imaginaire aussi.
C'était pas une question facile, Inès Leroux, votre éloge des haies.
Moi, en fait, j'arrive pas à faire un éloge des haies simplement comme ça, comme un objet écologique, parce que je me dis que la haie, elle est complètement articulée à l'activité paysanne et ça n'a pas de sens. Enfin, je fais plutôt un éloge de la paysannerie et cette bande dessinée, ce travail, il m'a vraiment permis de comprendre à quel point, en fait, aujourd'hui, ça serait très important que des politiques publiques œuvrent en faveur de la réimplantation d'agriculteurs et d'agricultrices paysans qui travaillent avec des haies sur les territoires français, parce que l'agroforesterie, l'agriculture avec les arbres, c'est la meilleure façon en fait d'être résilient face au climat.
Merci à tous les deux, Inès Leroux. Je rappelle que vous co-signez Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement, une bande dessinée qui a paru aux éditions Delcourt et La Revue Dessinée. Et Léandre Mandard, doctorant au Centre d'Histoire de Sciences Po Paris, quand est-ce que vous soutiendrez, vous savez déjà?
Pas encore, mais l'année prochaine, j'espère.
C'est une question qu'il ne faut jamais poser à un doctorant. Merci d'être venu à Question du soir.
Vous écoutez France Culture. Presque 3 ans après le début du procès dit des viols de Mazan, et alors que les plaidoiries ont débuté, France Culture vous propose toute une série d'émissions et de réflexions sur cette affaire totalement inédite. Que nous dit la diversité sociale des hommes impliqués dans ces agressions? En quoi cela doit-il nous interroger sur une culture du viol et les imaginaires qui la produisent? Peut-on espérer la briser et faire émerger une culture du consentement? Mazan, le procès du viol, demain sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Après son inoubliable film Tabou, Miguel Gomesh revient avec Grand Tour, prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Il nous embarque dans un voyage épique à travers 7 pays en Asie. Nous suivons Edouard qui fuit sa fiancée Molly, tandis que celle-ci part à sa recherche. Vivez une épopée envoûtante et hypnotique. Grand Tour de Miguel Gomesh, actuellement au cinéma. Un film France Culture.
Et des remerciements adressés à Stéphanie Villeneuve, Mathias Mégy, Fanny Richer, Juliette Mouélic, Florian Le Calvez, à la réalisation François Richer, aux manettes Jean Guilin, Meige. Ils sont les artisans de Questions du Soir. Et tout de suite, alors que le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil bat son plein, rendez-vous avec un dessinateur et scénariste de bande dessinée, Emmanuel Guibert. Il est interrogé pour un 4e volet d'Avoix Nues par Caroline Brouet.
Bonjour Emmanuel Guibert.
Bonjour Caroline.
On vous retrouve pour ce 4e temps de notre série À voix nue qui en compte 5, comme les auditeurs et les auditrices le savent bien. Pour ce 4e temps, j'aimerais qu'on parle de vos biographies dessinées ou du dessin documentaire, on l'appellera comme vous voulez vous. Mmh. Autrement dit, on va parler de la série sur Alan Ingram Cope, La guerre d'Alan, l'enfance d'Alan, Martha et Alan, dont la publication a couru de 2000 à 2016 à date, puisque nous enregistrons ces entretiens en octobre 2024. Je vous demanderai s'il y en a encore de prévu. Mmh. Et puis les albums du photographe. Le photographe, c'est 3 tomes autour du photojournaliste Didier Lefebvre en Afghanistan. Et ces albums courent de 2003 à 2006. Avant tout, puisque on vous a quitté dans le 3e épisode, on était sur les albums pour enfants. Avant tout, on peut dire que là, avec ces albums-là, vous avez opéré un virage à 180 degrés dans le dessin, dans la forme, dans les formats. Est-ce que c'est délibéré ou est-ce que ça a été déterminé par les projets?
Oui, réponse numéro 2, c'est généralement les projets qui décident. Et en l'occurrence, je suis obligé de commencer par le commencement, c'est-à-dire la rencontre d'Alan, puisque c'est ça qui détermine tout.
1994.
94, je suis dans l'île de Ré pour la première fois de ma vie, je me promène à Saint-Martin qui en est la capitale, je remonte du port, je suis vaguement égaré mais pas plus que ça, et je demande mon chemin à un vieux monsieur qui est en train de scier du bois devant la porte de sa cuisine, plus pour m'approcher de sa maison qui me paraît comme ça charmante et à l'intérieur de laquelle j'ai envie de jeter un coup d'œil, plutôt que, à proprement parler, pour lui demander où je suis. Et ce monsieur met un quart d'heure à me répondre, parce que il a fleuri sa réponse d'un nombre de détails que je ne lui demandais pas, et qui sont la marque des gens qui vous donnent plus que ce qu'on leur demande. Donc il m'a tout de suite tapé dans l'œil. Cela dit, quand on s'est quitté, j'étais avec mon père, donc... On est reparti, mon père et moi, et je n'avais pas dans l'idée de revoir ce monsieur. Je me suis juste dit, j'ai eu la chance de croiser quelqu'un de singulier, d'original, j'ai bien aimé cette petite conversation, elle n'aura pas de lendemain. Et puis le soir même, il y avait un concert de la magnifique Angélique Ionatos dans une des maisons de la culture de Lille, à la Quarde, et en sortant de ce concert pendant lequel j'avais évidemment fait des croquis dans le noir, j'aime bien ça, je vois que ce même vieux monsieur était lui aussi assis derrière, là. Et on s'est adressé un petit signe d'intelligence, mais même chose, sans plus. Et puis quelques jours après, c'était la fête de la musique sur le port de Saint-Martin-de-Ré. Là, j'étais en train encore de croquer des musiciennes qui étaient 2 jeunes filles, l'une qui jouait du violoncelle et l'autre de la flûte traversière sur le port de Saint-Martin. Et j'ai entendu derrière moi le halètement d'un chien et une voix qui me disait « compliment ». Et c'était donc Alan pour la 3e fois. Et là, on a compris que, vu que les 3 coups avaient été frappés, il était temps de passer aux choses sérieuses. Donc il m'a instantanément invité chez lui pour faire connaissance de sa femme et pour discuter, ce qu'on a fait jusqu'à plus de minuit. Je suis sorti de cette soirée lesté de bouquins parce qu'il m'en avait chargé les bras à mesure qu'il évoquait telle ou telle personne qu'il avait connue, telle ou telle lecture qu'il avait faite. Et dès le lendemain matin, je suis venu m'embusquer assez tôt devant chez lui pour faire un portrait en perspective de cette belle maison avec cette vigne de 16 mètres magnifique qui courait comme ça tout le long de la façade. Et une fois ce croquis terminé, je l'ai glissé dans sa boîte aux lettres pour le remercier de la soirée de la veille. Et évidemment, dans l'idée de raccrocher toujours plus les wagons. Et là, bah, ça s'est soldé évidemment par une après-midi passée dans son jardin, qui était à 1 kilomètre de sa maison de ville. Et puis on est allé se baigner, et puis voilà. Et c'est le jour où, après ce bain, alors qu'on séchait comme ça en faisant des allées et venues le long des vagues, j'ai écouté pour la première fois un récit sur sa guerre. Il n'en avait pas parlé là, ou de manière assez incidente comme ça pendant la première soirée. Et j'ai été tellement frappé pendant la demi-heure ou les trois quarts d'heure qu'on durait les quelques anecdotes qu'il m'a racontées par leur qualité que je lui ai dit « Est-ce que vous accepteriez qu'on fasse des bouquins ?» Donc on s'était vu 4 fois, quoi, voilà.
Parce que sa guerre, pardon, cette petite incise pour les auditeurs, sa guerre, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Il était né en 1925,
oui.
À Lanco, en Californie, et il avait été mobilisé en 41, comme GI, il avait été envoyé en France, où ensuite il s'est installé jusqu'à sa mort. Voilà, donc sa guerre, c'était la Seconde Guerre mondiale.
Exactement. Alors, il a eu la bonne fortune, parce qu'il était bon en transmission, de devenir enseignant de ce qu'il venait d'apprendre à Fort Knox, à l'endroit où il a été formé militairement. Donc, ça lui a permis de gagner quelques mois. Non pas qu'il ait voulu tirer au flanc, mais c'est comme ça, l'armée l'a gardé, parce qu'il pouvait devenir prof. Et ce qui fait qu'il n'a pas débarqué en 44, comme certains de ses copains. Mais il est arrivé début 45 au Havre, le jour de son anniversaire, d'ailleurs. Et le jour de ses 20 ans. Et là, il a ensuite, après diverses péripéties, traversé l'Europe dans une tourelle d'engin blindé, puisqu'il était canonnier sur un engin blindé de reconnaissance. Et le matin du 8 mai, il était à la frontière entre la Pologne et la Tchécoslovaquie. Ensuite, il est revenu occuper l'Allemagne, puis a fait un relativement bref retour aux États-Unis, qui sera le dernier. Parce qu'il reviendra ensuite en Europe pour ne plus jamais remettre les pieds dans son pays natal. Et donc voilà, des décennies après, je le rencontre, il me raconte tout ça, je suis captivé, éperdu d'amitié pour lui, vraiment. Et puis j'ai le bonheur que ce soit partagé, j'ai le plaisir à le voir, il a plaisir à me voir. Donc on décide qu'on ne va pas mégoter notre temps, qu'on va passer beaucoup de temps ensemble. On ne sait pas qu'on a 5 ans devant nous, il a 69 ans quand je le rencontre. C'est pas si âgé, j'aurais pu espérer le garder un peu plus que ça n'a été le cas, mais 5 ans après, en effet, il meurt d'un cancer qui a évidemment largement empoisonné sa dernière année et demie de vie et qui nous a par force beaucoup rapprochés parce que j'ai dû m'occuper de lui de très près. Et voilà, donc. Le fait de n'avoir pas jeté nos heures, comme il disait lui-même, m'a permis d'enregistrer un patrimoine important de conversations, comme on le fait aujourd'hui. J'étais en face de lui, comme vous l'êtes, et je lui posais des questions. Mais dans l'ensemble, c'était un conteur. C'était quelqu'un auprès duquel on pouvait s'asseoir et passer du bon temps, parce que non seulement il avait toutes les qualités de simplicité qui rendaient très immédiates les anecdotes qu'il racontait, mais en plus, il y mettait toujours une petite touche de commentaire qui prolongeait, approfondissait. Et c'était ce ton inimitable, en plus, dans un français, dans le français littéraire que parlent souvent les étrangers qui ont en partie appris notre langue dans les livres. Et puis matinée, évidemment, d'expression américaine et d'une pointe d'accent formidable. Donc tout ça, ça faisait le charme de ces conversations. Avec quelqu'un dont j'ai été toujours plus proche jusqu'à sa disparition et que je n'ai pas voulu quitter après. Et c'est tout l'intérêt de la bande dessinée ou de quelque initiative qu'on puisse prendre sur quelqu'un qui disparaît, c'est que ça permet de manière totalement non morbide, vraiment de manière active, de garder sa main dans la sienne Et puis, il se passe en plus, quand on fait des livres, quelque chose de délicieux, c'est que une personne qui, pour vous, est morte, elle naît pour les gens qui lisent l'histoire.
Vous en avez fini avec Alan au moment où on parle, ou non, il y a des projets en cours?
J'ai écrit à peu près 80 pages d'un volume consacré à son adolescence, qui sera le prochain. Et puis voilà, j'en parle à vrai dire depuis longtemps, parce que je laisse filer le temps comme si j'en avais à revendre. Il s'agira quand même peut-être de presser un peu le mouvement dans les temps qui viennent pour que ce livre sorte. D'autant plus que peut-être, si les petits cochons ne me mangent pas, je ferai volontiers ensuite un ou deux livres supplémentaires. D'abord sur le vieux monsieur que j'ai connu, puisque au fond, c'est le seul aspect de sa vie qu'il ne m'a pas raconté, puisque j'étais là. Donc, pour la première fois dans ce cycle, je serai sans doute amené à prendre la parole, chose que je n'ai pas fait jusqu'ici, puisque c'est toujours Alan qui s'exprime dans les livres, et pas moi, j'en suis rigoureusement absent, même physiquement, on ne me voit pas dans ces bouquins, à part, généralement, une petite préface. Enfin, c'est le cas en tout cas dans La Guerre d'Alan. J'ai voulu chapeauter un peu cet ensemble en citant un de ses poèmes et en parlant un peu des circonstances de notre rencontre. Mais pour le reste, mon but était vraiment de mettre le lecteur à ma place, parce que j'avais trouvé cette place extrêmement privilégiée. Et donc, j'ai dû quitter ma chaise, si j'ose dire, pour que le lecteur puisse s'y asseoir. Donc, je ne suis pas dans ces bouquins. Par contre, j'espère que le lecteur est de plein pied avec Alan, face à Alan.
Je vais vous poser la question du fond et de la forme, Emmanuel Guibert. Donc là, on a bien compris que ce qu'on appelle vulgairement le fond, c'est-à-dire le sujet, l'amitié, a déterminé la forme, c'est-à-dire le résultat de La Guerre d'Alan qu'on peut lire, qui est de facture assez particulière dans la mesure où, de fait, il y a du texte. Texte issu de vos enregistrements, des entretiens que vous avez menés avec Alan Cope, et vos dessins en noir et blanc, avec parfois beaucoup de noir, parfois beaucoup de blanc, parfois peu de texte, parfois beaucoup de texte, et des dessins que j'aimerais que vous nous qualifiez, vous, parce que vous êtes le seul à même de le faire. Comment vous avez dessiné à partir de ces entretiens?
Je pense que j'ai dessiné pour lui faire plaisir. Et donc, le style employé, mes critères, étaient ce que j'imaginais qui pourrait lui plaire. Je dois dire que la première fois où je lui ai apporté quelques planches, parce qu'il a bien fallu qu'il y ait une première fois, on était tombé d'accord sur le fait que je l'enregistrerais. Et jusque-là, si j'ose dire, il savait en quoi ça consistait. On s'asseyait autour de cette table, on sortait les bières et les Coca-Cola qui trempaient dans la citerne. Le jardin s'arrosait, nous aussi, on parlait. Et il a été agréablement surpris quand les premières planches sont arrivées. Mais moi, par contre, je serrais beaucoup les fesses le premier jour où je lui ai montré les dessins, parce que j'étais déjà très mordu. Moi, j'étais attaché à lui et à cette initiative. Je pensais qu'il y avait quelque chose. Et s'il m'avait dit « c'est pas ça du tout, ça me met mal à l'aise », voir mes souvenirs interprétés, dessinés par un autre, c'est vraiment une expérience déstabilisante, un peu rebutante. À ce moment-là, j'aurais dû plier bagage, ou alors... Peut-être qu'il m'aurait dit, alors ça, c'était pas comme ça, c'était plutôt comme si. Et à ce moment-là, on serait rentré dans une relation vétilleuse de faut faire, faut refaire, faut re-refaire, qui m'aurait elle aussi vraisemblablement découragé assez vite. Et en fait, dès qu'il a vu les premières planches, il a eu une réaction d'enthousiasme, de contentement visible, et il m'a laissé instantanément la place qui était la mienne, en relevant des choses qui, en effet, ne ressemblaient pas à ce qu'il avait vécu, mais en soulignant d'autres qui, au contraire, étaient étrangement, parfaitement superposables, adhérentes à son souvenir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec d'autres personnes avec lesquelles il m'est arrivé de collaborer, c'est que si on écoute bien quelqu'un, et si on a confiance dans le patrimoine d'images qu'on a accumulé dans sa tête depuis qu'on est en ce bas monde, sur les êtres, sur les circonstances, sur l'histoire en l'occurrence, puisqu'évidemment avant de le rencontrer, ce second conflit mondial, comme tout un chacun, j'en avais vu beaucoup d'images, on finit par trouver l'image qui se superpose très exactement au souvenir. Ça n'arrive pas toujours, mais quand ça arrive, c'est très troublant pour l'un et pour l'autre. Et c'est un signe que s'écouter, c'est parvenir à une certaine identité de vue. Donc je trouve que philosophiquement, c'est assez intéressant. C'est un encouragement, en fait, à... Alors d'une part à s'exprimer bien, parce que je trouve qu'on n'écoute pas volontiers quelqu'un qui ne s'exprime pas bien. S'exprimer bien, ça ne veut pas dire nécessairement s'exprimer de façon fluide ou de façon fleurie. Ça veut dire chercher sincèrement à dire la vérité avec les mots qui sont les nôtres. Et lui, il avait cette qualité-là. Et quand on perçoit cette épaisseur d'existence, quand on perçoit cette franchise, quand on admire secrètement quelqu'un qu'on écoute en se disant il est en train de parler de lui d'une manière visiblement très juste, non conformiste, non conventionnelle. Et donc j'ai de l'intérêt à être avec lui parce que j'ai besoin, moi, à l'âge que j'ai, enfin à vrai dire on en a besoin à tout âge, mais à 30 ans face à un homme qui en avait 70, j'avais d'autant plus besoin de quelqu'un qui me raconterait l'existence en perspective et qui vraiment me ferait bénéficier de son expérience. C'était ce qui était en train de se passer. Donc l'échelle des responsabilités, une fois de plus, était haute pour moi, parce que face à quelqu'un qui met ça sur la table, on a envie d'être à la hauteur. Donc quand je rentrais chez moi, c'est pas que je me tenais à carreau, mais j'essayais de me prémunir sur le plan du dessin, sur le plan de la documentation. Il n'est pas sourcilleux au point de m'avoir retardé exagérément dans mon travail, mais j'ai quand même fait les recherches, les voyages, les enquêtes nécessaires.
Oui, parce que plus l'album avance aussi, plus on vous voit partir sur les lieux où il a été. Vous êtes en reportage, vous allez presque enquêter.
Alors on ne me voit pas.
Non, on vous voit, pardon. On vous imagine. Le résultat qu'on vit, c'est que vous êtes là-bas, quoi. Sur les traces à Pasadena, oui. Vous allez sur les lieux où il a vécu. Alors qu'au début, la trace est plus
douter,
de l'entretien. Quoi.
On peut s'en douter, je le dis un peu dans la préface, en effet. Mais pour moi, c'était assez nécessaire. Ça ne l'a pas été toujours. Il y a paradoxalement des recherches que j'ai faites après coup, aussi étonnant que ça puisse paraître, au moment où elles ne me servaient plus à l'élaboration du livre. Mais j'ai été aidé en cela par des rencontres que j'ai faites, notamment en République tchèque, avec un historien et une journaliste qui m'ont vraiment... fait d'immenses cadeaux en retrouvant des photographies d'Alan, qu'Alan n'aura jamais vues, pendant cette campagne de Bohème, prises par de parfaits inconnus comme ça au bord des routes et qui ont été conservées dans les archives pragoises. Donc j'ai vécu après sa mort un certain nombre d'aventures extrêmement touchantes et très romanesques autour de lui. Et c'est des choses qui viennent nourrir sa présence en ce bas monde, quand bien même il n'est plus là. Donc, je peux dire qu'il se passe rarement une journée ou en tout état de cause, deux ou trois, sans que j'ai des pensées pour lui. En plus, c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup. Donc, il y a des noms de fleurs que je connais grâce à lui. Il y a des recettes que je connais grâce à lui. Ce qui fait que ça donne évidemment de très nombreuses occasions de l'évoquer et de penser à lui.
Autre projet, Emmanuel Guibert, qui part là encore, là aussi, d'une rencontre amicale, c'est le photographe. Le photographe qui raconte 4 mois de mission pour MSF, Médecins Sans Frontières, en Afghanistan en 1986, d'un photoreporter, Didier Lefebvre. Alors Didier Lefebvre, vous ne l'avez pas rencontré quand il avait 70 ans, mais quand vous aviez 14 ans et lui 21, c'était votre voisin. Vous vous êtes perdu de vue, vous vous êtes retrouvé. Racontez-nous comment est né le projet de travailler ensemble et pour vous, de raconter ce moment fondamental pour lui. En mêlant, là encore, facture, résultat très différent du précédent, en mêlant cette fois les textes, vos dessins et les photos du monsieur.
On ne s'est jamais perdu de vue, en fait. Il a déménagé, mais on continuait à se voir et à se parler de loin en loin, parce que c'était d'emblée quelqu'un qui, là aussi, m'avait énormément plu par qui il était, par son attitude, par son humour... par sa bonhomie, et puis assez rapidement, quand je me suis rendu compte qu'il arpentait la planète et qu'il choisissait comme destination les lieux de guerre, les lieux d'épidémie, les lieux de misère, etc., j'ai évidemment là aussi conçu pour lui une admiration assez comparable à celle que j'avais pour ce jeune Alan qui, bon, il a été appelé, il ne pouvait pas dire grand-chose, mais enfin, il n'a pas mégoté, il est parti, il a fait cette guerre. C'est des gens auxquels on doit une révérence absolue parce que ils ont fait des choses dont on ne sait pas si on aurait trouvé en soi-même le courage de les faire. Et puis ces choses ont un résultat. Pour Alan, ça a été Alors, il n'a pas résolu le second conflit mondial à lui tout seul, mais enfin, il a fait partie de ceux qui y ont participé, raison pour laquelle j'ai souhaité qu'il ait sa rue à Saint-Martin-de-Ré, ce qui est le cas maintenant. La rue où il habitait s'appelle désormais le passage Alan Cope. Et en ce qui concerne Didier, ben, ce métier, dont je me suis rendu compte en le côtoyant, que j'en voyais le résultat dans la presse, je savais ce que c'était qu'un reporter photographe parce que je voyais les photographies dans les magazines et dans les journaux. Mais au fond, je savais pas ce qu'était la vie d'un reporter photographe. Le reporter photographe, il rapporte un matériau, mais c'est pas lui qu'on interroge, c'est pas lui qui écrit généralement, c'est plutôt un rédacteur qui est envoyé en cheville avec lui. Donc on connaît peu ces gens en fait. Et quand on a à les connaître via le cinéma ou la bande dessinée, pourquoi pas, en parlant du reporter le plus célèbre qui soit, c'est-à-dire Tintin, il est rare qu'on les voit vraiment faire leur métier, ou si on le voit, c'est souvent dans des circonstances un peu héroïques et qui s'éloignent parfois de ce qu'est la réalité du terrain. Donc j'ai été très intéressé à entendre Didier me parler de son travail régulièrement, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que l'exercice de ce travail devenait de plus en plus difficile. Pourquoi ? Parce que c'était les années 90, c'était à la fois l'arrivée massive du numérique qui rebattait beaucoup les cartes de la photographie. Jusque-là, elle était argentique, fallait trimballer des pellicules avec soi, il fallait en nourrir son appareil photo, et elles avaient toutes sortes d'exigences. On pouvait développer ces pellicules que quand on était rentré avec et qu'on les portait au laboratoire. Et puis du jour au lendemain, arrivaient des machines où on appuyait sur un bouton et à peine la photo prise, elle était à la rédaction et publiée, etc. Donc il y a eu une accélération qui a laissé beaucoup, beaucoup de photographes sur le carreau. Donc Didier a été assez bouleversé comme tout le monde par tout ça. Il a moins bossé parce que tout simplement il perdait des jobs comme beaucoup de photographes de cette époque. Et bossant moins, il était plus à Paris. Et ça lui portait un peu sur le système de ne pas voyager parce que c'était vraiment sa vie. Alors ça se voyait pas tellement parce que c'était Didier, c'était vraiment une sorte d'optimisme incarné, de volonté toujours d'aller de l'avant, etc. Mais enfin moi j'étais proche comme j'étais de lui, je sentais bien que c'était pas facile. Donc je lui ai proposé incidemment, comme ça, puisque t'es plus souvent là, voyons-nous un peu plus. Et donc la première fois que je l'ai invité, on a commencé par se dire, voyons-nous en balançoire une fois par mois. Un coup c'est toi qui m'invites, un coup c'est moi qui t'invite. Donc la première fois que j'ai invité, c'était dans mon atelier avec les copains, là. Et on lui a fait une sorte de banquet. Et donc Johan, Christophe, David, etc. l'ont très... évidemment, sympathiquement reçu, et on l'a bombardé de questions pendant tout le repas, parce que c'était, ouais, on avait Tintin à notre table, donc fallait en profiter. Et puis la fois suivante, ça s'est passé chez lui, à Morangis, et là je lui ai dit, je te consacre mon après-midi, raconte-moi une histoire. Donc il est parti, il a disparu dans son atelier, là au sous-sol, et il en est remonté, avec des planches contact, avec des tirages, avec des carnets, etc. Il m'a dit, voilà, ça c'est une mission que je considère comme ma première grande mission photographique, en 1986, dans l'Afghanistan occupé par les forces soviétiques, avec Médecins Sans Frontières, et je vais te la raconter. Et me la racontant, elle renaissait à ses yeux, parce que, au fond, c'est une mission qui avait déjà une dizaine d'années au moment où il me l'a raconté, un peu plus. Et donc, il avait eu le temps, non pas à proprement parler de l'oublier, mais en tout cas d'en oublier nombre de détails qui, tout d'un coup, lui ressautaient à la figure à mesure qu'il sortait les photos. Donc, son récit avait le côté très, très incarné, très vivant et très haletant des gens qui font « Ah oui, ah puis ça, c'était, ah oui, cet homme, je me souviens, etc. » Donc, ça donnait un sel au récit formidable. Moi, je bouillonnais intérieurement parce que j'étais vraiment frappé par la qualité de ce qu'il était en train de me dire. Et puis, j'étais lancé dans Alan.
Donc, oui, c'était en parallèle d'Alan.
Ouais. C'était en parallèle d'Alan. Je savais ce que c'était que de faire un livre avec quelqu'un qui en vaut la peine. J'avais déjà la procédure en main. Donc, même chose que sur la plage de Saint-Martin-de-Ré, à la fin de cette journée formidable passée avec lui, je lui ai dit, Didier, je pense qu'il faut rendre justice à ce reportage. Il se considérait comme amplement payé pour la raison qu'il avait publié 6 photographies dans Libération en 1986 à son retour. 6 photographies sur 4000 clichés pris pendant les 4 mois. Donc inutile de dire que dans la masse de clichés qui n'avaient pas été vus, il y avait d'excellentes photographies. Et puis il y en avait aussi de moins bonnes, mais qui, moi, me faisaient palpiter parce que je me disais, ce sont des photographies qui ne correspondent pas à ces critères esthétiques, mais sur le plan de l'information, elles sont formidables, donc on pourrait les utiliser dans un récit.
Et donc le récit a déjà pris forme dans votre tête à ce moment-là,
ouais.
D'une certaine façon.
Oui, d'autant plus que ce qui me montrait, c'était des planches contact, qui est un objet qui a pratiquement disparu aujourd'hui, mais qui consistait pour les photographes à faire par leur tireur des pages, appelons ça comme ça, sur lesquelles les pellicules étaient comme posées. Et les pellicules, c'était les photos côte à côte dans des cases, où un récit se développait. Et évidemment, il ne faut pas être grand clair quand on fait de la bande dessinée pour se rendre compte que morphologiquement, il y a une ressemblance assez forte entre la planche contact et la planche de bande dessinée. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille et je me suis dit, en exploitant ces planches contact dans un continuum de bande dessinée, on devrait pouvoir passer d'un médium à l'autre, si j'ose dire, sans réfléchir. Et on devrait pouvoir en tirer un effet de contraste et d'information intéressant.
Et c'est comme ça qu'avec votre compère, le graphiste Frédéric Lemercier, vous avez conçu un style graphique compatible avec la présence de photographie dans cette trilogie du photographe. Un mot sur le fait que c'est aussi deux séries, Le Photographe et La Guerre d'Alan, qui ont été publiées à un moment où ce qu'on a appelé la BD documentaire ou du réel émerge, prend son essor. Est-ce que vous aviez lu des choses, par exemple, est-ce que un livre qui, en tous les cas, en France, n'était pas encore complètement émergent, mais aux États-Unis beaucoup plus, mais est-ce que Amos d'Art Spiegelman vous a été utile, vous a servi, est-ce que vous aviez ça en tête au moment où vous échafaudiez vos propres ouvrages? Est-ce que cette veine-là de la bande dessinée était arrivée jusqu'à vous, Emmanuel Guibert?
Oui, oui, de toute façon, historiquement, chaque génération se donne l'impression de réinventer un peu la poudre. En fait, il y a toujours des prédécesseurs. Il est évident qu'au XIXe siècle, le dessin était le mode d'information des lecteurs des journaux, avant que la photographie ne le remplace. Et puis, ultérieurement, dans les générations qui m'ont immédiatement précédé, Cabu, par exemple, faisait des reportages dessinés dès les années 60. Et en effet, Maus était paru au début des années 90 en France, je ne sais plus exactement à quelle date, mais j'avais, comme tout le monde, été absolument frappé par la qualité de ce livre et de ce témoignage. Et puis j'avais lu enfant, j'avais lu des biographies en bande dessinée, enfant, il y en a toujours eu. Certaines étaient des bondieuseries que j'aimais beaucoup, même quand j'avais perdu la foi du charbonnier. Et elles émanaient notamment d'un monsieur qui s'appelait Joseph Gillin, qui signait JG dans Spirou. Et j'ai souvenir, par exemple, d'avoir lu enfant une biographie de Baden-Powell, par exemple, par JG, où on voyait ce jeune Anglais dans son collège faire le mur pour aller faire des croquis dans la nature. Donc j'avais sous les yeux enfant des exemples de biographies dessinées où on présentait des gens qui faisaient des dessins d'observation. Donc il est évident que tout ça m'a évidemment gagné, la contagion de tout ça m'a gagné, parce que ça me faisait saliver. Je me disais, mais c'est extraordinaire de se carapater comme ça dans les bois pour dessiner des écureuils. Et puis c'est tout aussi extraordinaire de partager la vie de quelqu'un de A à Z avec ce qu'est la bande dessinée, c'est-à-dire quelques images et quelques mots. Et au fond, quand on perd les gens, on se rend compte que ce qui nous reste d'eux, c'est pas plus. C'est quelques images et quelques mots. Et il y a une adéquation, vraiment, depuis toujours, entre la bande dessinée, ou disons les séquences narratives, puisque si on pourrait remonter aux Égyptiens, mais entre les séquences narratives et le récit de vie, qui est, je trouve, très, très adéquate.
C'est ce par quoi nous commencerons, Emmanuel Guibert, le cinquième et dernier épisode de Ces Voix Nues, puisque Alan Cope est mort en 1999 à l'âge de 74 ans, vous l'évoquiez, mais Didier Lefebvre est mort, lui, à 49 ans en 2007, donc très prématurément. Et ils rejoignent toute la cohorte, évidemment, de vos amis, de vos proches disparus. Cette mort dont vous avez beaucoup parlé en écrivant dessus dans « Dormir dans les transports en commun », on en a déjà parlé, paru dans le troisième volume de « Légende ». On parlera de la façon dont, comment vous arrivez à rendre vos dessins aussi vivants. On commencera peut-être par ça, demain. Merci et bonne soirée.
Merci Caroline.
C'était À Voix Nue avec Emmanuel Guibert, réalisation Laurent Polleré, prise de son Yvan Charby, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.
France Culture.
Pourquoi Elon Musk fascine-t-il autant ?
Guillaume Erner.
Est-il le héros d'une nouvelle ère ou l'illustration de ses contradictions ?
This is one of the great questions in physics and philosophy is where are the aliens ?
Nous plongeons dans la vie, les réussites et les controverses de celui qui veut nous emmener sur Mars et sera à la Maison Blanche.
Les visages de l'actualité. Elon Musk à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France.
France Culture présente l'exposition « Caillebotte, peindre les hommes ». Gustave Caillebotte porte au cœur de l'impressionnisme et de la modernité une profonde interrogation sur la condition masculine. Sa vision réaliste et personnelle questionne l'apparence et l'existence des hommes de son temps. « Caillebotte, peindre les hommes » jusqu'au 19 janvier 2025 au Musée d'Orsay à Paris. Un partenariat France Culture.
France Culture, il est 20h, soit l'heure de retrouver Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir Quentin.
Et vous aussi, vous vous saisissez d'une bande dessinée.